Lui, avant l'arrestation, avait été dans l'ordre pendant 9 mois seulement.
J'avais trouvé sur Aboulafia le récit d'autres fuites. Et j'y songeais l'autre soir dans le périscope, tandis que dans le noir, je percevais une succession de bruissements, craquements, grincements. Et je me disais de garder mon calme, car c'était la manière dont les musées, les bibliothèques, les antiques palais parlent dans leur barbe, la nuit. Ce ne sont que de vieilles armoires qui cherchent leur équilibre, des corniches qui réagissent à l'humidité vespérale, des plâtres qui s'écaillent, avares, 1 millimètre par siècle, des murailles qui bâillent. « Tu ne peux t'enfuir, me disais-je, parce que tu es justement ici pour savoir ce qui est arrivé à quelqu'un qui a cherché à mettre fin à une série de fuites par un acte de courage insensé ou désespéré, peut-être pour accélérer cette rencontre tant de fois renvoyée avec la vérité. » Phil Name, Canaletto. Je me suis enfui devant une charge de police ou de nouveau devant l'histoire. Et c'est différent. Je suis allé au défilé par choix moral ou pour me mettre encore une fois à l'épreuve devant l'occasion. D'accord, j'ai manqué les grandes occasions parce que j'arrivais trop tôt ou trop tard. Mais la faute en était à l'état civil. J'aurais voulu être dans ce pré pour tirer, même au risque de toucher ma grand-mère. Je n'étais pas absent par lâcheté, mais à cause de mon âge. D'accord. Et au défilé? J'ai fui de nouveau pour des raisons de génération, ce combat ne me regardait pas. Mais j'aurais pu risquer, même sans enthousiasme, pour prouver qu'alors, dans le pré, j'aurais su choisir. Cela a-t-il un sens de choisir la mauvaise occasion pour se convaincre qu'on aurait choisi la bonne occasion? Qui sait combien de ceux qui, aujourd'hui, ont accepté l'affrontement, ont agi ainsi? Mais une fausse occasion n'est pas la bonne occasion. Peut-on être veule parce que le courage des autres vous paraît disproportionné à la vacuité des circonstances? Alors la sagesse rend veule, et on manque donc la bonne occasion quand on passe sa vie à guetter l'occasion et à y réfléchir. L'occasion, on l'a choisie d'instinct, et sur le moment, tu ne sais pas que c'est l'occasion. Peut-être l'ai-je saisi une fois, et je ne l'ai jamais su. Comment peut-on toujours se sentir visé et lâche simplement parce qu'on est né dans la mauvaise décennie? Réponse. Tu te sens lâche parce qu'une fois, tu as été lâche. Et si cette fois-là aussi, tu avais évité l'occasion parce que tu la sentais inadéquate? Décrire la maison, isolée sur la colline au milieu des vignes. Ne dit-on pas les collines en forme de mamelles? Et puis, la route qui menait à l'orée du bourg, à l'entrée de la dernière allée habitée, ou la première. Certes, tu ne le sauras jamais si tu ne choisis pas le point de vue. Le petit réfugié qui abandonne le cocon familial et pénètre dans l'habitat tentaculaire le long de l'allée côtoie et envieux redoute le sentier. Le sentier était le lieu de rassemblement de la bande du sentier. Petit gars de la campagne, sale, gueulard. J'étais trop citadin, mieux valait les éviter. Mais pour rejoindre la place et le kiosque et la papeterie, à moins de tenter un périple presque équatorial et peu digne, il ne restait plus qu'à passer par le Canaletto. Les gars du sentier étaient de petits gentilshommes par rapport à ceux de la bande du Canaletto. Du nom d'un ex-torrent devenu puant canal d'écoulement qui traversait encore la partie la plus pauvre de l'agglomération. Ceux du Canaletto étaient vraiment crasseux, sous-prolétaires et violents. Ceux du sentier ne pouvaient pas traverser la zone du Canaletto sans être assaillis et frappés. Au début, je ne savais pas que j'étais du sentier. J'étais à peine arrivé, mais ceux du Canaletto m'avaient déjà identifié comme ennemi. Je passais dans leur parage avec un illustré ouvert devant les yeux. Je marchais en lisant, et eux me repérèrent. Je me mis à courir, et eux à mes trousses me lancèrent des cailloux, dont un traversa l'illustré, que je continuais à tenir ouvert devant moi tout en courant pour me donner une contenance. Je sauvai ma vie, mais perdis mon illustré. Le lendemain, je décidai de m'enrôler dans la bande du sentier. Je me présentai à leur sanhédrin, accueilli par des ricanements. À cette époque, j'avais beaucoup de cheveux naturellement dressés sur la tête, comme dans la réclame des crayons presbytéraux. Les modèles que m'offraient le cinéma, la publicité, la promenade du dimanche après la messe étaient des jeunes hommes à veste croisée aux épaules larges, petites moustaches et cheveux pommadés adhérents au crâne, luisants. La coiffure en arrière s'appelait alors dans le peuple la mascagna. Je voulais la mascagna. J'achetais sur la place du marché le lundi, pour des sommes dérisoires par rapport à la situation de la bourse des valeurs, mais énormes pour moi, des boîtes de brillantines rêches comme du miel en rayon, et je passais des heures à me l'enduire sur les cheveux jusqu'à les laminer ainsi qu'une seule calotte de plomb, un bonnet papal. Puis, je mettais un filet pour les garder comprimés. Ceux du sentier m'avaient déjà vu passer avec le filet, et ils avaient lancé les quolibets dans leur très âpre dialecte, que je comprenais mais ne parlais pas. Ce jour-là, après être resté 2 heures chez moi avec le filet, je l'enlevais, vérifiais l'effet superbe dans le miroir, et m'acheminais pour rencontrer ceux à qui j'allais jurer fidélité. Je m'approchais d'eux quand désormais la brillantine du marché avait terminé son office glutineux et que mes cheveux commençaient à se remettre en position verticale mais au ralenti. Enthousiasme de ceux du sentier, en cercle autour de moi, qui se donnaient des coups de coude. Je demandais d'être admis. Malheureusement, je m'exprimais en italien. J'étais un marginal. Le chef s'avança, Martinetti, qui alors me sembla se dresser comme une tour flamboyant avec ses pieds nus. Il décida que j'aurais à subir 100 coups de pied dans le derrière. Peut-être devait-il réveiller le serpent Kundalini. J'acceptai. Je me mis contre le mur, tenu au bras par 2 adjudants, et je subis 100 coups de pied nus. Martinetti accomplissait sa tâche avec force, avec entrain, avec méthode, frappant de plante et non de pointe, pour ne pas se faire mal aux orteils. Le cœur des bandits rythmait le rythme. Ils comptaient en dialecte. Ensuite, ils décidèrent de m'enfermer dans un clapier pendant 1/2 heure, tandis qu'eux s'entretenaient dans leur parler guttural. Ils me firent sortir quand je me plaignis d'un fourmillement aux jambes. J'étais fier, parce que j'avais su me conformer à la liturgie sauvage d'un groupe sauvage, avec dignité. J'étais un homme appelé cheval. En ces temps-là, il y avait les chevaliers teutoniques, pas très vigilants, parce que les partisans ne s'étaient pas encore manifestés. Nous étions vers la fin 43, ou au tout début 44. Une de nos premières gestes fut de nous introduire dans une baraque, tandis que certains d'entre nous faisaient la cour au soldat de garde, un grand lombard qui mangeait un énorme sandwich au saucisson, et, nous sembla-t-il, nous en fûmes horripilés à la confiture. L'équipe de diversion flattait l'Allemand, louant ses armes, et nous autres, dans la baraque, pénétrable par l'arrière, délabrée, nous volions quelques pains de TNT. Je ne crois pas que par la suite on ait jamais utilisé le TNT. Mais il se serait agi, selon les plans de Martinetti, de le faire exploser en pleine campagne dans un but pyrotechnique. Et avec des méthodes qu'à présent je sais très grossières et impropres. Plus tard, aux Allemands succédèrent ceux de la 10e patrouille antisubmersible, la décima masse, qui constituèrent un poste de contrôle le long du fleuve, juste au carrefour où, à 6 heures du soir, les filles du collège de Marie Auxiliatrice descendaient de l'allée. Il s'agissait de convaincre ceux de la décima, ils ne devaient pas avoir plus de 18 ans, de lier des grenades allemandes pour en faire un bouquet de celles qui avaient un long manche et de les dégoupiller pour les faire exploser à ras de l'eau au moment précis où arrivaient les filles. Martinetti savait bien ce qu'il fallait faire et comment calculer les temps. Il l'expliquait aux antisubmersibles et l'effet était prodigieux. Une colonne d'eau s'élevait sur la grève au milieu d'un tonnerre fracassant au moment précis où les filles tournaient le coin de l'allée. Fuite générale dans des cris perçants, et nous, et les antisubmersibles, de nous bidonner. Ils s'en souviendraient de ces jours de gloire, après le bûcher de Molay, les rescapés du camp de concentration de Coltano, où on avait enfermé les vaincus de la République de Salo. Le grand amusement des gars du sentier était de ramasser les douilles et le matériel varié qui, après le 8 septembre, ne manquait pas. Vieux casques, gibernes, musettes, parfois des balles vierges. Pour utiliser une balle en carbone, on procédait ainsi. En tenant la douille dans la main, on introduisait le projectile dans le trou d'une serrure et on faisait force. La balle sortait et allait rejoindre la collection spéciale. On vidait la douille de la poudre, il s'agissait parfois de fines lamelles de balistite, qu'on disposait ensuite en des formes serpentines, à quoi on mettait le feu. La douille, d'autant plus prisée si l'amorce était intacte, venait enrichir l'armée. Le bon collectionneur en avait beaucoup et les alignait selon leur facture, leur couleur, leur forme et hauteur. Il y avait les divisions de fantassins, les douilles du mitra et du sten, fusils mitrailleurs, puis les porte-étendards et les chevaliers, mousquetons à baïonnette, fusils 91, le garand à répétition, nous le verrions seulement avec les Américains, et, aspiration suprême, grand maître dominateur, les douilles de mitrailleuses. Alors que nous étions absorbés par ces jeux de paix, un soir, Martinetti nous dit que l'heure était venue. Le cartel avait été envoyé à la bande du Canaletto qui releva le défi. Le combat était prévu en territoire neutre, derrière la gare, le soir même à 9 heures. Ce fut une fin d'après-midi estivale et accablée de grande excitation. Chacun de nous se prépara avec les dépouilles parafernales les plus terrorisantes, cherchant des morceaux de bois qui puissent être agilement empoignés, remplissant ses gibernes et sa musette de cailloux de différentes grosseurs. Quelqu'un, de la bretelle d'un mousqueton, s'était fait un fouet, redoutable entre les mains de qui le maniait avec résolution. Au moins, en ces heures vespérales, nous sentions-nous tous des héros, moi plus que tous. C'était l'excitation avant l'assaut. Âcre, douloureuse, splendide. Adieu, ma belle, adieu, rude, douce peine d'être un homme d'armes. Nous allions immoler notre jeunesse, comme on nous l'avait enseigné à l'école avant le 8 septembre. Le plan de Martinetti était sagace. Nous traverserions plus au nord le talus de la voie ferrée, contre toute attente, les prenant par derrière, et déjà pratiquement vainqueurs. Puis, assaut décidé, et point de quartier. C'est ainsi qu'au crépuscule, nous coupâmes l'escarpement du talus, progressant péniblement par raidillons et pentes abruptes, chargés que nous étions de pierres et de gourdins. À pic sur l'escarpement, nous les vîmes, déjà à l'affût derrière les latrines de la gare. Ils nous virent parce qu'ils regardaient vers le haut, soupçonnant que nous arriverions de ce côté-là. Il ne restait plus qu'à descendre sans leur laisser le temps de s'étonner de l'évidence de notre manœuvre. Personne ne nous avait pourvu de gnôle avant l'assaut, mais nous nous précipitâmes également en hurlant. Et l'événement eut lieu à 100 mètres de la gare. Là commençaient à s'élever les premières maisons qui, encore que dispersées, formaient déjà un réseau de ruelles. Il se passa que le groupe le plus hardi se jeta en avant, sans peur, tandis que moi et, par chance pour moi, quelques autres, nous ralentîmes notre allure et nous postâmes derrière les angles des maisons, observant de loin. Si Martinetti nous avait organisés en avant-garde et arrière-garde, nous aurions fait notre devoir, mais ce fut une sorte de distribution spontanée. Ceux qui avaient de l'estomac en avant, ceux qui avaient les foies en arrière. Et, depuis notre planque, la mienne plus reculée que celle des autres, nous observâmes l'engagement, qui n'eut pas lieu. Arrivés à quelques mètres les uns des autres, les deux groupes se firent front, en grinçant des dents. Puis, les chefs s'avancèrent et se mirent à parlementer. Ce fut un yalta. Ils décidèrent de se partager les zones d'influence et de respecter les passages occasionnels, comme il advenait entre chrétiens et musulmans en Terre Sainte. La solidarité entre les deux chevaleries l'emporta sur l'inéluctable de la bataille. Chacun avait donné bonne preuve de soi. En bonne harmonie, les bandes se retirèrent sur deux bandes de terrain opposées. Ils se retirèrent sur deux côtés opposés. À présent, je me dis que je ne suis pas allé à l'attaque parce que j'avais envie de rire. Mais à l'époque, je ne me le dis pas. Je me sentis lâche et c'est tout. À présent, plus lâchement encore, je me dis que si je m'étais jeté en avant avec les autres, je n'aurais rien risqué et j'aurais mieux vécu les années à venir. J'ai manqué l'occasion, à 12 ans. Comme manquer l'érection la première fois, c'est l'impuissance pour toute la vie. Un mois après, quand pour un franchissement de frontières fortuit le sentier et le canaletto se trouvèrent face à face dans un champ et que commencèrent à voler des mottes de terre, peut-être rassuré par la dynamique de l'événement passé ou aspirant ou martyr, je m'exposai en première ligne. Ce ne furent pas des volées de pierres sanglantes, sauf pour moi. Une motte, qui évidemment cachait un cœur de pierre, m'atteignit à la lèvre et la fendit. Je m'en fus en pleurant à la maison et ma mère dut jouer de la pince à épiler pour m'enlever la terre de la fente qui s'était formée à l'intérieur de ma bouche. Le fait est qu'il m'est resté un nodule, qui correspond à la canine droite inférieure, et quand je fais passer ma langue dessus, je sens une vibration, un frisson. Cependant, ce nodule ne m'absout pas, parce que je me le suis procuré par inconscience, non par courage. Je passe ma langue contre mes lèvres, et que fais-je? J'écris. Mais la mauvaise littérature ne rachète pas. Après la journée du défilé, je ne vis plus Belbo pendant environ 1 an. J'étais tombé amoureux d'Amparo, et je n'allais plus chez Pilade, ou bien les rares fois que j'y étais passé avec Amparo, Belbo n'y était pas. Et Amparo n'aimait pas ce lieu. Sa rigueur morale et politique, qui n'avait d'égal que sa grâce et sa splendide fierté, lui faisait sentir Pilade comme un club pour dandys démocratiques, et le dandysme démocratique était pour elle une des trames la plus subtile du complot capitaliste. Ce fut une année de grand engagement, de grand sérieux et de grande douceur. Je travaillais avec goût, mais avec calme, à ma thèse. Un jour, je rencontrai Belbo au bord des Navigli, pas très loin de chez Garamond. « Tiens, tiens, me dit-il avec joie, mon templier préféré, on vient de m'offrir un distillat d'inénarrable vétusté. Pourquoi ne faites-vous pas un saut en haut chez moi? J'ai des verres en papier et l'après-midi libre. » « C'est un zeugme, observai-je. « Non, un bourbon mis en bouteille, je crois, avant la chute d'Alamo. » Je le suivis. Mais nous avions à peine commencé de déguster que Gudrun entra et vint annoncer qu'il y avait un monsieur. Belbo se frappa au front. Il avait oublié ce rendez-vous. Mais le hasard a le goût du complot, me dit-il. S'il avait bien compris, ce type voulait présenter un livre qui concernait aussi les Templiers.
« Je l'expédie tout de suite, dit-il, mais soutenez-moi avec des objections subtiles. » Cela avait été certainement un hasard, et c'est ainsi que je fus pris dans les mailles du filet.